des ballots de cocaïne très purs qui arrivent sur le littoral atlantique depuis les Landes jusqu'à l'embouchure de la Loire.
Plus de 760 kilos de cocaïne qui se sont échoués sur des plages de l'Atlantique, de mystérieux paquets dont on ne connaît pas l'origine.
Les cérémonies du 11 novembre aujourd'hui pour marquer l'armistice de la Première Guerre en Mayenne, les drapeaux du souvenir sont confiés à des écoliers.
Mais il faut voir la fierté du gamin, alors que ça a été ringard pendant un moment. Moi, ça me fait chaud au cœur.
Et nous ferons également en ligne avec l'historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la Première Guerre. Mini-éclipse aujourd'hui, la plus petite planète du système solaire. Mercure passe devant le Soleil et la prochaine fois, ce sera en 2032.
Les législatives en Espagne, victoire du Premier ministre socialiste sortant Pedro Sanchez, mais surtout une percée du parti d'extrême droite Vox.
Et puis le foot avec le choc Marseille-Lyon et c'est l'OM qui gagne 2-1.
C'est vraiment une victoire d'équipe. Tout le monde a fait les efforts. Dib met ce doublé qui nous fait énormément de bien.
Marseille désormais deuxième du classement de Ligue 1 derrière le PSG. Il est 6h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Le journal. Le monde changer.
Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
C'est un phénomène bien étrange qui se produit maintenant depuis plusieurs semaines. Des ballots de cocaïne arrivent au gré des marées sur des plages de la côte atlantique.
Hier encore, 10 kilos à Pornic, 12 à Arcachon, des pains de cocaïne pure emballés avec soin et dont on ne connaît pas pour l'instant la provenance. Mais l'hypothèse privilégiée serait un délestage en pleine mer après une avarie.
Évidemment, l'arrivée de ces mystérieux paquets sur nos plages est prise très au sérieux par les forces de l'ordre, d'autant que leur contenu peut être dangereux pour la santé. Écoutez le procureur de Rennes, Philippe Astruc.
Depuis la mi-octobre, nous avons donc à ce jour récupéré 763 kilos de cocaïne qui arrivent sur le littoral atlantique, disons depuis les Landes jusqu'à l'embouchure de la Loire. Nous avons de nombreux points de collecte, ce qui justifie une intensification de surveillance du littoral qui permette un repérage des produits soit sur le littoral, soit encore en mer. J'attire l'attention sur le fait que ce produit est, d'un point de vue sanitaire, extrêmement dangereux, hein, puisqu'il est pur à 83%, c'est-à-dire que toute consommation de ce produit pourrait, de manière quasi certaine, emporter une overdose. Donc la seule attitude à avoir pour un promeneur qui découvrait un colis suspect sur les plages, c'est d'appeler les services de police ou de gendarmerie qui se déplaceront pour procéder à la saisie de ce produit.
Philippe Astruc, procureur de Rennes au micro-Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Et par mesure de sécurité, 5 communes de Gironde ont pris des arrêtés pour fermer leurs plages, notamment Lacanau ou Lège-Cap-Ferret. D'autres pourraient suivre.
Ce lundi sera une journée du souvenir, comme chaque année, l'occasion de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui a marqué la fin des combats de la Première Guerre.
Et on pourrait croire que seules les personnes âgées s'impliquent dans des événements si lointains, et non. Le devoir de mémoire, il passe aussi par une initiative comme celle qui est menée dans les établissements scolaires de la Mayenne. Les drapeaux d'anciens combattants sont confiés à des élèves et ils sont nombreux à se porter candidats pour avoir cet honneur. Reportage à Laval, François Coulon.
C'est eux qui se sont battus pour qu'on ait notre liberté et c'est nous maintenant qui portons leur drapeau. Je trouve ça beau.
Ces drapeaux représentent des vies et un courage fou poursuit Loman, 14 ans du collège Jules Renard de Laval. Ici, comme dans une vingtaine d'établissements scolaires de Mayenne, des élèves, bérets et gants blancs, portent les drapeaux d'associations patriotiques lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. Et on se bat pour ça, témoigne René Sauvage, délégué du Souvenir français, de retour d'un collège de Cran.
Le principal a demandé des porte-drapeaux. Il a eu 50 porte-drapeaux qui sont présentés. C'est effarant.
Ça tient à quoi ?
Je pense que les attentats ont joué un rôle et ont fait prendre conscience aux jeunes d'un certain patriotisme qui était délaissé, puis qu'il faut se raccrocher aux valeurs de la France. Et ils sont emballés, les jeunes. Emballés. C'était un peu la bagarre pour être le porte-drapeau. Ils sont fiers, ils se tiennent droit, ils sont heureux, y compris les tout petits. Mais il faut voir la fierté du gamin, alors que ça a été ringard pendant un moment. Moi, ça me fait chaud au cœur. J'ai beaucoup d'émotions.
À Laval, 40 collégiens participeront aux commémorations de ce 11 novembre. Laval, François Coulon, Europe.
Bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, auteur notamment de 14-18, l'intégrale chez Perrin. Un mémorial pour ces soldats tués en OPEX depuis 1963, inauguré le même jour que l'armistice de 1918. C'est un problème pour vous ?
Non, ce n'est pas véritablement un problème parce que depuis février 2012, une loi a été votée qui institue un jour du souvenir et qui fait du 11 novembre non plus seulement le jour de recueillement de la France au sujet du grand sacrifice de la Première Guerre mondiale, mais qui en fait un jour de recueillement pour tous ces morts, tous les morts.
Mais c'est pas parce qu'il y a une loi que c'est forcément bien. J'aimerais avoir votre sentiment personnel. Est-ce qu'on ne mélange pas un peu tout ?
Alors, ça, ces débats, effectivement, ont eu lieu en 2011, quand Nicolas Sarkozy a fait cette proposition, et en 2012, quand la loi a été votée. À l'époque, d'ailleurs, François Hollande y était hostile, mais quand il est devenu président de la République, plus rien, il a tout à fait accepté cette espèce de journée de mémoire, Memorial Day. Effectivement, si vous voulez, pour les Français, on peut faire des lois, mais la mémoire, ça ne se décrète pas, l'oubli, ça ne se décrète pas non plus. Et pour les Français, le 11 novembre est associé à la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu 1 500 000 morts. On a des blessures dans toutes nos familles.
Justement, Jean-Yves Le Naour, quand on parle de la Grande Guerre, ce qu'on retient, c'est vraiment ce charnier. Les soldats ont été littéralement massacrés.
C'est même 900 morts. Je voudrais faire cette moyenne, 900 morts par jour. Vous voyez, parce que quand on a un mort en opération, on en a eu un tout récemment au Mali. Aussitôt, il fait les grands titres du journal.
On ne va pas comparer, oui, parce que les temps ne sont pas les mêmes.
Mais bien sûr, les temps ne sont pas les mêmes.
Et les armes non plus.
Ouais. Bien sûr, mais c'est pour vous dire à quel point le 14-18 était un Moloch, un monstre qui dévorait le pays. Et aujourd'hui, si effectivement qu'on a un mort, il fait les grands titres de la presse, de la radio et de la télévision, c'est parce que la guerre et parce que la mort nous est absolument insupportable. Alors qu'en 14-18, la valeur sacrifice était au centre. Aujourd'hui, pour un chef en opération, c'est plus du tout le sacrifice, c'est ramener ses gars. C'est ça le premier point.
Merci Jean-Yves Le Naour d'avoir été en direct dans le journal de 6h ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Ce matin, Emmanuel Macron va présider la cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l'armistice avec dépôt de gerbe devant la statue de Clémenceau et remontée des Champs-Élysées.
Ouais, et dans l'après-midi, le chef de l'État doit inaugurer le premier monument dédié aux morts pour la France en opération extérieure. Monument situé dans le parc André Citroën à Paris.
Plusieurs milliers de personnes participaient hier dans la capitale à la marche controversée contre l'islamophobie. 13 500, selon le comptage du cabinet Occurrence, avec lequel travaille Europe 1. Pas de débordement à signaler, mais une image fait grand bruit. Celle d'une petite fille portant une étoile jaune avec le mot muslim. À ses côtés, la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Comparaison indécente, selon la députée de la majorité, Aurore Berger.
Il est 6h08 sur Europe 1. La suite du journal, Hélène Zénani, Pierre de Villeneuve.
L'événement ne se produit que 13 fois par siècle. Mercure, la plus petite planète du système solaire, va passer devant le Soleil aujourd'hui.
Oui, ça ne sera pas une éclipse classique, une mini-éclipse plutôt. Phénomène qui doit commencer chez nous à 13h35 précise. Il va durer jusqu'à 17h, mais pour l'observer, il faudra impérativement un télescope. Les précisions du consultant espace d'Europe 1, Alain Sirot.
Nous allons assister au passage de Mercure devant le Soleil. C'est un événement rare, c'est un événement pratiquement invisible si nous ne disposons pas de lunettes, de télescopes, de filtres et puis évidemment d'une bonne météo. Donc c'est un mouvement très lent de la planète qui va passer devant le disque solaire et qu'on peut comparer finalement à un confetti qui va se déplacer sur ce disque, sur l'équivalent d'un ballon jaune pendant pratiquement 4 heures. Ça sera totalement invisible à l'œil nu, mais les astronomes utilisent cette méthode dite des transits planétaires pour observer à très grande distance le passage de planètes devant d'autres étoiles. Cette méthode dite de transit planétaire est aujourd'hui utilisée par l'astronomie moderne pour prouver l'existence d'autres planètes, des exoplanètes tournant autour d'autres étoiles.
Alain Sirou, avec l'Ordre d'Autriche et dans plusieurs observatoires de France, des télescopes seront accessibles à tous. Si vous ratez l'événement, il faudra attendre 2032 pour que cela se reproduise.
Non, c'est pas demain. On redescend sur Terre, si vous le voulez bien. Vous l'aurez remarqué peut-être, si vous avez déjà mis le nez dehors ce matin, les températures sont glacial.
Oui, moins 2 à Aurillac par exemple en ce moment, il fait 5 à Paris. C'est une vague de froid qui s'installe sur toute la France cette semaine, 2 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Quelles sont les précautions à prendre? Écoutez les réponses du docteur Yves Paubert, il est généraliste en Ariège.
Dans la mesure du possible, s'il n'est pas indispensable de sortir, le mieux est de rester chez soi. Par contre, il est important de bien vérifier ses chauffages et surtout se méfier des chauffages d'appoint. Souvent, on a des vieux chauffages d'appoint qui sont remisés dans les caves et les greniers, on les sort à ce moment-là. Parfois, les gens bouchent les aérations du logement et à ce moment-là, il y a un risque très clair d'intoxication à un gaz d'oxyde de carbone qui est dangereux. On s'alimente bien, hein, on mange normalement, voire plus riche que d'habitude. On protège bien la tête, le cou, les mains, les pieds, hein, qui sont les extrémités, c'est par là que la température s'échappe. L'important étant de faire l'essentiel et puis de vivre au ralenti en attendant que les choses s'améliorent.
Voilà, on va vivre au ralenti. Le docteur Paubert, joint pour Europe 1 par Sophie Echen.
Est-ce que vous vivez au ralenti? Qu'est-ce que vous faites quand il fait très très froid? Est-ce que votre activité vous permet justement de rester confiné chez vous ou pas du tout? Vous devez justement braver des températures comme à Aurillac, moins 2 degrés ce matin. Et peut-être que vous avez justement ce genre de système de chauffage encore qui n'est pas tout à fait fiable. Vous posez vos questions, vous réagissez chez nous au 3921. À l'étranger, on votait en Espagne hier, 4e législative en 4 ans.
Le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sanchez est arrivé en tête, mais pas de majorité claire. Et donc ce n'est pas la fin du blocage politique qui dure maintenant depuis 2015. L'événement marquant de ce scrutin, c'est surtout le bond de l'extrême droite. Le parti Vox a doublé son score et c'est désormais la 3e force politique du pays. Un choc pour Martine Martinez, électeur de gauche.
C'est une mauvaise nouvelle que l'extrême droite s'implante, c'est une présence solide en Espagne.
Comment on explique cette émergence de l'extrême droite en Espagne? C'est la Catalogne, c'est Franco?
Je pense que d'une certaine manière c'est lié à la Catalogne et à l'essor de partis populistes ou des messages populistes partout en Europe. Nous avons le problème en France avec les Front National, en Italie avec Salvini, au Royaume-Uni avec les UKIP, le Brexit Party. Donc jusqu'à maintenant l'Espagne était un peu isolée de ce phénomène et malheureusement il se trouve que ce phénomène commence aussi à prendre de l'ampleur en Espagne, ce qui est regrettable. Mais j'espère aussi que les Espagnols, une fois qu'ils auront le temps de se familiariser avec ce nouveau parti en Espagne, ils vont réaliser qu'en réalité, ce n'est pas une bonne chose ni pour l'Espagne, ni pour les Espagnols, ni pour l'Europe.
Un témoignage au micro européen d'Henri de Laguerry. Puis en Bolivie, le président Morales a finalement démissionné après 3 semaines de manifestations contre sa réélection.
Il est 6h12 sur Europe 1.
Allez, on passe au foot maintenant avec le choc OM-OL. C'était hier soir l'Olympique de Marseille qui s'est imposé dans un vélodrome survolté.
Score final 2-1, récit de Cyril de la Morinerie.
Dimitri Payet montre les biceps aux supporters et bombe le torse. C'est l'homme du match. Un doublé dont un pénalty inscrit avec beaucoup de sang-froid. Une guerre des nerfs dans la surface de réparation. L'attaquant de 33 ans a dû attendre 5 minutes que les joueurs se calment avant de pouvoir délivrer le vélodrome.
C'est compliqué, mais c'est long surtout. Mais voilà, j'essaie de rester dans ma bulle, de me concentrer sur le geste que j'ai à faire. Je l'ai tiré et ça a fonctionné.
Porté par ses supporters, l'OM n'a jamais tremblé. Ni la réduction du score, ni l'expulsion d'Alvaro Gonzalez n'ont perturbé des Marseillais solidaires, souligne le capitaine Steve Mandanda.
Oui, c'est clair, c'est vraiment une victoire d'équipe. Tout le monde a fait les efforts. Dib nous met ce doublé qui nous fait énormément de bien. Mais derrière, tout le monde a couru, même à 10. On a vu les mecs se mettre minables et faire tout ce qu'il fallait pour maintenir ce résultat. C'est bien, mais il faut continuer.
Continuer en s'appuyant sur ce match référence, le plus beau de la saison. Marseille, qui n'avait plus battu Lyon en championnat depuis 5 ans, se retrouve deuxième de Ligue 1. Une position plus digne de son standing. Marseille, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et puis le tennis, vous le savez, la France a remporté la Fed Cup pour la 3e fois de son histoire, l'équivalent de la Coupe Davis pour les femmes.
Et vous savez quoi, Kristina Mladenovic, elle sera avec nous tout à l'heure à 6h40. C'est dans un tout petit peu moins d'une demi-heure. Restez avec nous. Maintenant, un petit peu de musique. Elle s'appelle Isabelle Georges. C'est une artiste française spécialisée dans les comédies musicales.
Et là, elle vient de sortir un disque. Oh là là, c'est son titre. Un disque dans lequel elle revisite à sa manière la chanson française. Thierry Geffrotin.
Ses modèles s'appellent Judy Garland et Shirley MacLaine. Son univers, c'est Broadway. Mais aujourd'hui, Isabelle Georges change de répertoire.
Je t'attends. Viens. Ne tarde pas.
Isabelle Georges chante Gilbert Bécaud, Charles Trenet.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo.
Dans ce disque, Isabelle Georges explore la chanson française. Charles Aznavour, Boris Vian, Édith Piaf. Mais elle le fait à sa manière.
Comment mettre en scène certaines chansons ? Qu'elle soit interprétée, on va dire, peut-être plus comme une chanteuse de comédie musicale, c'est-à-dire quelqu'un qui joue, qui bouge. Par exemple, La vie en rose, c'est vraiment un morceau de comédie musicale. On s'imagine bien la danse, il y a du corps, il y a de la sensualité. La comédie musicale, elle n'est jamais très loin.
Isabelle Georges qui sera au théâtre des Champs-Élysées à Paris le 20 décembre.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani que l'on retrouve tout à l'heure à 7h30.